Il y a une quinzaine de jours, j'étais au foyer de charité de Tressin, à côté de Dinan, pour prêcher une retraite des familles, avec des dizaines et des dizaines de familles. Il y avait 150 enfants qui étaient pris par tranches d'âge, par petits groupes pendant la journée, ce qui laissait les parents tranquilles et en silence. Et je les voyais deux fois par jour pour leur donner un enseignement, pour les aider à entrer dans la prière. Et à la fin de cette retraite des familles, j'ai prévenu les enfants de ce que j'avais dit à leurs parents. Je n'avais pas tout repris, mais ce que j'avais dit à leurs parents, de répondre lorsque je leur ai dit « Vous allez repartir, vous allez être en voiture sur la route et forcément à un moment ou à un autre, vous allez dire « On arrive quand ?» C'est quand ? Tous ceux qui ont voyagé, même quand on était enfant, on disait la même chose. C'est bientôt ? On arrive quand ? Voilà, plein de bons souvenirs, plus ou moins bons. Et j'ai dit aux parents de répondre. On arrive où ? Les enfants demandent, on arrive quand ? Et les parents répondent, on arrive où ? C'est quand ? Mais c'est où ? Les deux sont inséparables. L'instant présent, c'est maintenant, mais c'est ici. Un temps et un lieu. C'est ça être incarné. Dans un corps, dans une famille, dans une communauté. Même les disciples à Jésus de dire, quand ? Quand est-ce que ça va se passer ? Quand ? Et pourtant, lui leur a dit, où ? Où sont amour et charité ? On est en droit d'attendre du chrétien qu'il sache où il va. Ça ne veut pas dire que nous le sachions dans tous ces détails. Mais je suis quand même toujours étonné quand j'entends des catholiques dire qu'ils ne savent pas ce qui se passe après la mort. Comme si la résurrection n'avait pas de sens concret, réel. Après la mort, nous voyons Dieu de nos yeux. Dans l'évangile qui est sans doute le plus utilisé pour des célébrations d'obsèques, peut-être en grande partie de la part de ceux qui sont loin de l'Église, parce que Jésus dit que dans la maison de son Père, il y a beaucoup de demeures. Dans ce passage d'évangile que vous connaissez probablement, on entend l'apôtre Thomas dire à Jésus, « Nous ne savons même pas où tu vas. » C'est bien la preuve qu'il est bouleversé, car c'est bien un reproche qu'on ne peut pas faire à Jésus. Jésus est l'homme qui sait où il va. Il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Jésus sait où il va. Nous l'avons entendu au début de ce chapitre 6 de Saint Jean, lors de la multiplication des pains. Il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Nous l'avons fêté lors de la transfiguration au début août, lorsqu'il emmène trois de ses disciples sur une autre montagne pour conforter leur foi avant de vivre la passion. Et la voix venue du ciel, venue du Père, venait justement confirmer cette confiance à lui faire. Écoutez-le quand il vous dit de le suivre. Nous l'avons fêté cette semaine avec la transfiguration, si on peut appeler ça ainsi, la transfiguration de la Vierge Marie, son assomption, transfigurée corps et âme dans la gloire du ciel, notre espérance. Et l'Évangile relatait que, à l'annonce de l'ange, Marie se rendait avec empressement, de façon déterminée, chez sa cousine Élisabeth. Elle sait, Marie aussi, elle sait où elle va. On est en droit d'attendre du chrétien qu'il sache où il va. Ça n'empêche pas les passages à vide. Ça n'empêche pas les crises, les moments de doute. Ce qu'on entendait dans la première lecture dimanche dernier, le blues du prophète Élie. Tellement il demandait au Seigneur de reprendre sa vie. À ce moment-là, il ne se rendait pas à la montagne de Dieu, il fuyait les représailles de la reine Jézabel. Quand vous êtes effectivement tourné vers le passé, quand vous craignez le passé, vous avez beaucoup plus chance de déprimer. Si vous fuyez. Savoir où on va ne signifie pas que la route soit toute tracée, ni qu'on ne se pose pas de questions. C'est une très grande tristesse de voir des personnes enfermées dans leur certitude, qui croient tout savoir, qu'elles soient croyantes ou athées d'ailleurs. Et Jésus s'attriste de ce temps perdu, de ces personnes, ces juifs qui se querellent, qui récriminent entre eux. Est-ce qu'un aveugle peut guider un autre aveugle ? Je rencontre nombre de personnes qui sont tiraillées, perdues dans de telles incertitudes. Le plus souvent d'ailleurs faute d'engagement. Je pense à l'une d'elles, j'ai rencontré il y a quelques semaines, qui vivait avec un garçon, mais elle ne voulait pas se poser la question du mariage. Elle ne savait pas où aller. Elle était sûre de rien. Elle n'était pas sûre de ses sentiments pour lui, elle n'était pas sûre de ses sentiments à lui pour elle, elle n'était pas sûre des enseignements de l'Église qu'elle connaissait bien, elle n'était pas sûre des incitations de l'époque qu'elle absorbait volontiers. De rien. Est-ce que c'est mieux que d'être pétri de certitudes? On n'est pas forcément passé d'un extrême à l'autre. Les auditeurs de Jésus étaient pétris de certitudes, toutes sortes d'a priori. Mais parmi toutes les personnes que je rencontre, plus ou moins incertaines, je peux témoigner, je peux attester de la différence forte, nette, entre celles comme nous qui se retrouvent à la messe le dimanche, qui prient, qui ont ce lien personnel avec le Christ, et celles qui n'ont pas ce lien personnel. Comment voulez-vous savoir où vous allez si le Christ n'est pas présent en vous? Il y a dans la première lecture, extrait du livre des Proverbes, cet appel à la sagesse. À qui manque de bon sens? À qui manque de bon sens? Elle dit, venez, mangez, buvez, mangez de mon pain, buvez ce vin. Et nous l'entendons bien sûr à la lumière de l'Évangile, la chair du Fils de l'homme, son sang, pour avoir la vie en nous. Et dans la deuxième lecture, ce qui est pour nous de dimanche en dimanche la lecture continue de la lettre aux Éphésiens, saint Paul, en parfaite continuité, la première lecture dit « Ne vivez pas comme des fous, soyez pas insensés, soyez plutôt remplis de l'Esprit Saint. » Il complète « Priez, chantez le Seigneur, célébrez-le de tout votre cœur. » C'est le signe que Dieu est présent en nous. C'est le cantique joyeux, heureux de la Vierge Marie, son Magnificat. On peut penser que trouver son chemin était plus facile à l'époque de Jésus qu'aujourd'hui. À l'époque de Jésus, on peut penser qu'on n'était pas en proie, comme aujourd'hui, à tant de sollicitations multiples, certaines très séduisantes, permanentes, où il n'y avait pas un tel environnement de consommation. Sauf que c'est le contraire. Cette profusion, c'est plutôt la conséquence de notre indécision. Alors on peut en souffrir. Mais on peut effectivement faire ce que nous vivons en cet instant, poser cet acte de liberté, prendre la décision de vivre avec le Christ, de le suivre, par lui, avec lui, en lui. Une amie m'a dit l'autre jour, un objectif, un projet, un rêve. Un objectif, un projet, un rêve. Alors, j'ai eu l'air un peu embêté sans doute en entendant ça parce que j'y réfléchissais en même temps, je cherchais ce que je mettais derrière et comme j'étais probablement pas sûr de pouvoir aligner les trois, elle m'a rassuré tout de suite, elle m'a dit « Le rêve n'a pas besoin d'être exaucé. » En réalité, pour être plus exact, c'est pas que le rêve n'a pas besoin d'être exaucé, mais on ne sait pas ni où ni quand. Un objectif, c'est précis, on sait où et quand. Un projet, ça dépend pas que de nous. On sait à peu près quoi, on sait quand, mais ça ne dépend pas que de nous, on ne sait pas où. Un rêve, ni où ni quand. Un objectif, un projet, un rêve. Depuis, j'essaye régulièrement de m'en servir pour faire le point, me dire, voir à peu près où j'en suis. Et je peux vous dire que tout change suivant que je conçois la sainteté. C'est ça le chemin de notre vie. Suivant que je conçois la sainteté, comme un projet ou comme un rêve. Si, pour moi, la sainteté est un rêve qui n'a pas besoin d'être exaucé, je peux me lancer, je peux me perdre dans toutes sortes de projets. Mais si je situe la sainteté comme un projet, alors chacun de mes objectifs devient clair. Et peu importe la nature de mes rêves, ou plutôt de notre rêve, nous savons quel est notre rêve. C'est la priorité, sa place centrale donnée à l'amour. C'est que chacun soit prêt à aimer et à se laisser aimer. Voilà ce que je vous propose d'essayer aujourd'hui ou cette semaine. Essayez chacun un objectif, un projet, un rêve. Et demandez-vous aussi où vous situez la sainteté.